Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Alfred Orange est avec moi aujourd'hui. Salut Alfred.
Salut Rémi, salut à tous.
Alfred, journaliste RMC, il a bossé toute la matinée pour bien préparer tous les sujets, pour qu'on puisse bien tout comprendre et ensuite débattre tous ensemble au 32-16. Avec nous également Benjamin Hamard, syndicaliste et enseignant. Salut Benjamin.
Salut Rémi, salut à tous.
On va notamment parler de l'école et des profs non remplacés. L'État qui vient d'être condamné par la justice. On en parlera, ce sera à partir de 12h30. Robert Sebag est là également. Salut Robert.
Bonjour.
Infectiologue à la Pitié Salpêtrière. Et puis Frédéric Herbel, journaliste RMC. Tiens, tu m'as dit pour la première fois hier soir, tu tenais pour le PSG.
Ne révèle pas les conversations privées. Non, c'est vrai que j'étais plutôt détendu. Et à partir du moment où le PSG et le Barça ne sont pas mes deux clubs préférés, j'ai regardé le match avec une certaine détente.
Y a peut-être pas toi qui étais trop détendu hier soir.
Mbappé, par exemple, c'était pas tendu du tout.
Allez. Dans un instant.
Bonjour.
Dans un instant, salut Fred. Dans un instant, 1 milliard d'euros de dégâts. C'est la facture des émeutes de l'été 2023, celle qui avait suivi la mort de Naël à Nanterre. Les familles de délinquants doivent-elles rembourser? Vous nous appelez au 32-16. À 12h30, donc, on parlera de l'État condamné pour manque de profs. Est-ce que c'est logique cette condamnation? À 13h, carburant. Doit-on plafonner les prix à 1,50€? Vous l'avez certainement remarqué en faisant votre plein ces derniers jours. Les prix augmentent à nouveau et c'est l'association 40 millions d'automobilistes, dont le président sera avec nous tout à l'heure, Pierre Chasseret évidemment, qui réclame, donc il lance une pétition pour plafonner ses prix à 1,50€. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, faut-il relancer les colonies de vacances? Moi j'en ai fait des colos et j'en garde un très bon souvenir. Le gouvernement veut relancer les colonies de vacances. On en parlera avec Alfred qui nous expliquera tout à l'heure. Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
La facture du jour, facture des émeutes de l'été dernier qui avait suivi la mort de Naël à Nanterre. La commission d'enquête qui a donc été chargée d'enquêter sur le pourquoi, le comment et le bilan de ces émeutes vient de rendre son rapport, c'est un rapport sénatorial. Elle chiffre le montant des dégâts, Alfred, à 1 milliard d'euros, c'est du jamais vu.
Oui, à titre d'exemple, Rémi, c'est 4 fois plus que les émeutes de 2005. Sur ce milliard d'euros de dégâts, 793 millions ont déjà été déclarés aux assureurs. L'Île-de-France est la région la plus touchée, devant l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Dans le détail, à travers le pays, 12 000 véhicules ont été incendiés, 273 commissariats attaqués, 243 écoles vandalisées et 105 mairies dégradées. Dans ce rapport de la commission des lois du Sénat, on en apprend aussi plus sur le profil des émeutiers, moyenne d'âge, 17-18 ans, dont 2/3 sont inconnus des services de police. Et on est loin du jeune marginalisé socialement, puisque la grande majorité d'entre eux sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, comprendre, sont à l'université. Les sénateurs formulent donc 25 propositions pour mieux prévenir ce genre d'incident, comme faciliter les procédures judiciaires contre les mineurs ou moderniser l'équipement des forces de sécurité.
1 milliard d'euros de dégâts lors des émeutes de l'été 2023. Les familles de délinquants doivent-elles rembourser? Vous nous appelez au 32-16. On attend toutes vos réactions et vos témoignages. Robert Sebag, SO, famille de délinquants, de rembourser.
Je vais répondre à votre question. Mais souvent, vous savez, on compare les émeutes entre 2005, celle de 2005, si on reprend l'histoire, et celle de 2023. Il y a quand même des différences extrêmement importantes. D'abord, on s'aperçoit que les lieux, il y a eu beaucoup plus de lieux, il y a eu plus de 600 lieux qui ont été touchés, ouais. Ce qui n'était pas le cas en 2005. Deuxièmement, là, on s'est attaqué à la République. En 2005, c'était effectivement dans les banlieues. Là, on a attaqué des mairies, on a attaqué des médiathèques, on a attaqué des écoles. Et donc là, on s'est attaqué directement à la République. C'était pas le cas en 2005. Deuxièmement, on s'aperçoit qu'il y a 30% de mineurs. J'ai regardé les chiffres. Donc des gens qui dépendent de l'autorité parentale. Donc on peut se poser des questions sur la responsabilité également des familles. Donc est-ce qu'il faut pénaliser effectivement les familles? Est-ce qu'il faut un remboursement mensuel pour les jeunes qui ont été attrapés? Pour les familles, on peut se poser quand même des questions. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y avait à peu près 50 000 émeutiers et 45 000 forces de l'ordre. Quasiment un policier pour chaque émeutier. Donc on se dit, si un jour il y a des beaucoup plus que ça, on pourra même pas couvrir. Donc voilà, toutes ces questions font que ça a été quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement fort. Et donc on peut se poser des questions, si vous voulez, le pourquoi. Pourquoi on s'attaque à la République et pourquoi à ce niveau-là ?
Un milliard d'euros de dégâts pour ces émeutes. Fred, est-ce que c'est aux familles de délinquants de rembourser ?
C'est moi qui vais payer et j'ai pas envie. C'est moi, c'est toi, c'est nous tous ici. Donc, on va payer de deux manières. Par nos impôts, puisque tout, l'État est son propre assureur. Donc tout ce qui dépend de l'État et qui a été une mairie ou un commissariat qui appartient à l'État qui est abîmé, eh ben c'est l'État qui paye. Donc ce sont nos impôts. Et on va payer une deuxième fois pour tout ce qui est privé, c'est-à-dire les assurances vont rembourser, mais les assurances n'ont pas besoin d'argent. Hein. Ce sont les primes de tous les assurés français qui vont augmenter pour payer ces émeutes. Moi, j'en ai marre de payer, en fait. J'en ai marre. C'est tout, c'est simple. Il faut arrêter. Si moi, je prends ma voiture, j'ai bu un petit coup, je casse quelque chose, l'assurance va pas marcher. On va dire, l'assurance va pas prendre en compte et on va me faire payer. Ouais. Et je vais payer peut-être toute ma vie pour ça. Ben, je suis désolé. Ceux qui ont cassé, ils vont qu'à payer toute leur vie. Et si on dit, ils sont pas solvables, eh ben, on prend sur les aides sociales. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi les autres devraient payer pour ceux qui ont cassé. Et quand on a des enfants, on choisit d'avoir des enfants, on les assume, et quand les enfants font des conneries, eh ben on paye. Après, peut-être que si les parents doivent payer pour leurs enfants, après c'est à eux de faire bosser leurs enfants l'été, ce qu'ils veulent. Mais moi j'en ai marre de payer, et je pense que les citoyens français en ont marre de payer pour les autres.
Benjamin Amar, même question.
Non, je pense que le principe de la justice dans notre pays, c'est une justice individuelle. Dans l'exemple que donnait Fred, s'il fait n'importe quoi avec sa voiture, effectivement, il va devoir payer. Lui, pas son cousin. Ou pas sa mère. Donc,
Il est majeur.
Oui.
S'il était mineur.
Alors, mais justement, alors si on part sur l'exemple des mineurs et des parents.
L'autorité.
Moi, j'ai vu, dans des conseils de discipline, dans les lycées, des élèves convoqués, et donc les parents sont convoqués, j'ai un exemple, où par exemple, la mère se faisait abreuver d'insultes par son fils. Voilà, c'est horrible comme scène, c'est détestable. Mais quand on a ainsi une mère de famille qui se fait abreuver d'insultes par son fils avant le conseil ou pendant le conseil, on pense bien qu'elle a aucune prise. Il y a beaucoup de mères célibataires qui doivent des fois éduquer leur enfant seul.
On a 60%, c'est ça, de familles monoparentales dans le profil des émeutiers.
Absolument.
Et donc dans ces cas-là, vous avez des parents qui bossent. Qui bossent beaucoup et qui sont littéralement débardés par leurs gosses.
Mais c'est pas mon problème. Hein.
Non mais attends, tu.
C'est pas moi de payer pour eux.
Fred,
désolé,
encore une fois, je ne t'ai pas coupé la parole. Je vais aller au bout de mon argumentation. Et donc, il y a des. On peut pas punir les parents quand ils sont complètement désarmés face à leurs gosses. Et donc. Par contre, il y a des choses possibles.
Bah, on leur retire l'autorité, alors. Il fallait leur retirer l'autorité avant.
Non, mais il me semble que on peut, par exemple, être ferme sur un certain nombre de sanctions. Les travaux d'intérêt généraux. Mais bon sang, vous savez que c'est au Moyen-Âge qu'on jugeait collectivement quelqu'un, un individu et sa famille autour. Faut sortir de ça. Voilà. Donc moi, je pense encore une fois que effectivement. Et puis, je vais vous donner un autre exemple. Bon sang. Il y a des tas de systèmes. Il y a des tas de gens. Il y a les fraudes en col blanc, l'évasion fiscale, la fraude à la taxe carbone. Ces gens, ils coûtent beaucoup à la collectivité. C'est des sommes astronomiques. On les condamne eux. On va pas chercher effectivement leur parentèle.
Oui, mais ils payent.
Donc.
Oui, mais ils payent. Ils sont saisis. Ils payent.
Eh bien, mais donc je te redis que c'est. Il y a le principe de la justice des mineurs, c'est comme ça. Si on résout le principe de la justice des mineurs en disant bon, alors on condamne les parents. Je suis désolé.
Non,
cette
on condamne
logique,
pas les parents. C'est non, logique. Non, on condamne pas les parents.
Ah ben si.
Ah non, parce que la peine. Tu dis que l'individualisation de la peine. On est tout à fait d'accord. Si un mineur fait une connerie, c'est pas le père qui va aller en prison.
Même non, mais
si
il va payer.
On a vu que ça commence à se faire.
Il lui demande de payer.
Mais après, à partir du moment où tu es le responsable légal de quelqu'un, tu dois.
Ça c'est prévu par la loi. Hein.
Attendez, je suis désolé. Si. Non. S'il y a un gamin, s'il y a votre gamin derrière qui frappe quelqu'un et que ça relève de la prison ferme, vous n'allez pas en taule à la place de votre.
Non. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est que les parents sont responsables des dégâts financiers provoqués par leur enfant quand ils sont mineurs.
Non, mais si c'était véritablement ce qui était prévu par la loi, on se poserait pas la question et ça se ferait.
Mais non, mais parce qu'on n'aurait pas. La loi, on a
si c'est véritablement la disposition, on serait pas en
mais
train d'en
débattre
ici sur
RMC. C'est le cas, c'est prévu par la loi, tu es responsable. Quand ton enfant est mineur, s'il casse un carreau au gymnase qui est à côté de toi, c'est toi, en tant que parent, qui dois rembourser. Mais le problème, et c'est une situation justement, on pourrait en parler, le problème c'est que la plupart des parents dont on parle, j'en sais rien, je dis pas la plus, c'est au doigt mouillé, mais un certain nombre de parents dont on parle ne sont pas solvables.
Eh ben, on prend sur les aides sociales.
Je suis pas sûr que ce soit la seule raison, honnêtement. Et je pense que si ça ne se traduit pas en justice, c'est parce qu'on sait très bien que la jurisprudence pourrait effectivement défaire cela. C'est pas dans la logique. La justice, elle est individuelle.
Tiens, on va aller voir tout de suite. On va aller vers le 32-16 parce qu'on a un témoignage important qui nous arrive au 32-16. C'est Jean-Michel qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous. Bonjour,
Merci infiniment d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jean-Michel, vous habitez en Seine-Saint-Denis, c'est ça?
Ouais, j'habite en Seine-Saint-Denis, fier d'y habiter, parce qu'il y a de très très bonnes choses aussi qui s'y passent, pas que des mauvaises. Et je suis là pour vous donner un témoignage fort, puisqu'il s'agit de mon fils. Donc en septembre, les policiers sont venus le chercher à 6h du matin, devant sa sœur et ainsi que ses parents. Donc je vous raconte pas l'émotion, on sait pas ce qui s'était passé. Et ensuite, on a découvert que malheureusement, il avait participé aux émeutes suite à la mort de Naël.
Il a quel âge votre fils, Jean-Michel ?
À l'époque des faits, il avait 17 ans, il venait d'avoir son bac pro en main, il était prêt à travailler, tout ça. Et malheureusement, nous, ce jour-là, le jour où Naël il est mort lors de cette interpellation, j'ai dit à mon fils, et j'ai dit surtout, tu bouges pas de la maison, parce que moi, j'ai grandi à la Courneuve et je sais que ça pouvait exploser. C'était une étincelle, quoi. C'était une poudrière. J'étais sûr que ça allait mal tourner. Donc j'avais dit de rester là, mais malheureusement, il a été mangé un kebab avec ses amis, tout ça. Et il y a eu un mouvement de foule énorme, des gens beaucoup plus âgés que lui, qui avaient en moyenne 20-22 ans, qui eux ont été... eux, ils sont partis en prison direct. Suite à ça...
Je peux vous demander ce qu'a fait votre fils, exactement ?
Mon fils, il a participé à des jets de pierre. Il a pas incendié ni quoi que ce soit, mais on lui reprochait beaucoup d'avoir fait des jets de pierre. Déjà, ça peut être très dangereux. Il pouvait blesser un policier municipal, enfin bref. Et donc, il a été accusé de beaucoup de choses. Donc voilà, moi j'ai pu aller voir les policiers municipaux m'excuser en tant que papa parce que moi j'étais pas là ce jour-là, donc j'ai pas pu l'empêcher de sortir. Sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de mères seules, beaucoup de mères isolées qui sont dans une détresse totale. Tout le monde chiale là-dedans parce qu'on est tous bouleversés par tout ce qui se passe. C'est des gens qui, en plus, c'est des femmes seules qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin, qui travaillent dans les aéroports, qui travaillent. Même moi, je suis chef de chantier, donc je sais ce que c'est le boulot. Contrairement à ce qu'on peut croire, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui travaillent,
évidemment,
gens courageux, mais des gens seuls. Ensuite, c'est grave, évidemment, ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là, bien sûr. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui n'avaient aucun casier. Aucun.
Ouais, c'est ce que disait Alfred tout à l'heure. La majorité d'entre eux n'avaient pas de casier.
Deux tiers. Les deux tiers. Inconnus des services de police.
Qui ont mis le feu et tout ça, c'était des délinquants déjà qui avaient déjà eu des problèmes en amont. Moi, mon fils, c'est quelqu'un qui manque de rien. Il part en vacances chaque année. Il a eu son bac.
Jean-Michel.
Ouais. Ce jour-là, excusez-moi.
Non, allez-y.
C'est parti en sucette.
Vous avez discuté avec lui, vous lui avez demandé pourquoi?
Il paiera, s'il doit payer, il paiera, mon fils.
Jean-Michel,
il travaille, il met de l'argent de côté, il paiera. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Par contre, j'aimerais aussi qu'on s'offusque un peu plus aussi de l'argent que le policier, il a touché. Il devrait aussi en verser pour réparer les écoles. Parce que le jour où.
Vous parlez du policier qui est impliqué dans la mort de Naël.
Le jour où il a tiré cette balle-là, il a commis des dégâts partout aussi. Et là, la police, elle manque de moyens et tout ça. Alors, on condamne plus de moyens aux policiers aussi. Parce que c'est bien beau d'accuser les jeunes et ceci, cela. Bien sûr, c'est grave ce qu'ils ont fait. Et ils seront punis, vous inquiétez pas. Mais on manque de moyens dans ce pays. Les policiers vous le diront, il manque de moyens.
Il a ah bah oui, si on casse tout, c'est vrai qu'on manque de moyens parce que tout ça, ça coûte un milliard. On manque de moyens parce que ça a coûté. Bah oui, monsieur, on manque de moyens, mais quand ça brûle, c'est un milliard.
Il en a marre, ce policier, d'arrêter des gens qui risquent de renverser une femme avec une poussette et tout ça, ce qui est normal. Mais lui aussi, il a commis une faute. Alors tout le monde doit payer.
Il sera jugé.
Mais voyez,
une dernière question, Jean-Michel, votre fils, il a déjà été condamné ou pas?
Non.
Pour l'instant, l'affaire est en cours.
D'accord.
Lui, il se tient à carreau, c'est pas un délinquant, mon fils, il a jamais été arrêté.
Et quand vous lui avez demandé, j'imagine, vous lui avez posé la question, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les images et les mots peuvent tuer plus vite qu'une balle aussi. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux à Pierre Larigot. Ils s'envoient les images de cette arrestation. Même moi, quand je l'ai vu, j'étais en couche avec mon épouse, quand je l'ai vu, cette image, j'ai fait putain, ça va partir en sucette. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, je vis un drame aussi. Vous croyez que c'est... Mais tout le monde vit un drame à cause de ça. Tout le monde. Les communes, les mômes, vous les voyez, les mômes, ils sont, c'est des mômes, ils, face aux juges, ils ont plus rien, c'est plus des délinquants, ils sont comme des cons.
Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous.
Ce que je voudrais dire quand même, c'est que tout le monde doit payer aussi, hein. Il n'y a pas que nous, il y a aussi la responsabilité de l'État qui ne donne pas assez de moyens aux policiers, de formation et compagnie. Ça, il faut le signaler aussi.
Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous. Jean-Michel qui nous appelait depuis la Seine-Saint-Denis, chef de chantier, on peut être d'accord ou pas avec lui. En tout cas, ce qui est important, c'est que Jean-Michel nous ait appelé au 32-16 et qu'il et son témoignage
est très important. Il a dit qu'il allait payer.
Il a dit
qu'il allait payer. Moi, je trouve ça très bien.
Non, mais Rémi, on s'aperçoit que la moyenne, c'est 23 ans. Il n'y a pas que des mineurs. 23 ans, et certains avaient un bac plus 2. Donc c'est des gens peut-être qui travaillent, qui ont déjà une activité professionnelle.
La moyenne d'âge, c'est 18 ans.
Du profil des émeutiers, 18 ans.
Ah, ben, 17, moi, j'ai vu.
Non, là, c'est le dernier rapport sénatorial, c'est 18 ans.
De la commission.
D'accord, mais il y a une bonne partie d'entre eux qui sont mineurs.
Et 30%, et il y a aussi.
14 ans.
Il y a des gens qui ont des bacs plus 2 et qui travaillent. Donc peut-être que ceux-là, comme l'a dit le père, Jean-Michel, avec beaucoup de franchise, ils vont payer. Peut-être qu'il faut, pendant un certain nombre de mois, que même symboliquement, il y ait quand même un paiement de la part des émeutiers.
Jean-François Amadieu est avec nous. Bonjour Jean-François Amadieu. Sociologue, merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jean-François Amadieu, ce rapport sénatorial qui établit une facture à 1 milliard d'euros, c'est 4 fois plus que lors des émeutes 2005. Est-ce que l'ampleur des dégâts, maintenant que c'est chiffré, vous étonne ?
Non, je crois que tout le monde avait pu le constater. Et par contre, ce qu'on a très bien identifié, c'est ce qui est différent avec ces émeutes-là par rapport aux précédentes de 2005. Et en particulier, comme votre auditeur vient très bien de le dire à l'instant,
Jean-Michel,
il y a une responsabilité actuellement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès le début, on sait très bien que malheureusement, toute l'organisation, toute la montée en violence finalement, la coordination de ce qui s'est passé dans les émeutes est passé par ces fameux réseaux. Et donc, c'est là qu'il faut agir, évidemment. Et je voudrais dire qu'avant de chercher à récupérer le milliard perdu, et tout le monde comprend que ça va être compliqué d'aller chercher l'argent auprès des parents, donc c'est pas quelque chose de simple, tout le monde connaît le problème, il faut en revenir au point important, qui est que il faut appliquer ce qui existe actuellement dans la loi, que ce soit pour les mineurs et même en dessous de 13 ans déjà, et bien entendu pour les majeurs, c'est l'ensemble des mesures qu'on n'applique pas. Là, c'est un problème de judiciaire. On n'applique pas un ensemble de mesures qui existent déjà.
Lesquelles ?
Et qui permettent pas seulement de taper au pénal, mais également au portefeuille et les jeunes, pas les parents. Parce que ce qui compte, c'est de faire en sorte que n'importe quel jeune, depuis l'école primaire, parce qu'on a un vrai problème enfant dans les établissements, mais comprenne que c'est lui qui va avoir les conséquences.
Mais c'est quoi les mesures qu'on n'applique pas, Jean-François Amadieu ?
Je vais prendre des exemples. On vient de voter le 10 avril un texte sur le bannissement des réseaux sociaux, le bannissement numérique. Quand vous êtes un jeune, que vous, mineur, peu importe, vous harcelez, vous êtes en train d'organiser des émeutes, vous propagez des discours de haine, etc., etc. Ce qui, bien sûr, était le cas dans les émeutes dont on parle. Bien entendu, vous, quand vous faites tout ça, eh bien, si vous avez une condamnation, il est possible maintenant que le juge dise « vous allez être banni des réseaux sociaux ». Et ce qui est intéressant, c'est que si les entreprises qui gèrent ces réseaux n'appliquent pas vos dispositions, on pourrait théoriquement leur appliquer 75 000 euros d'amende par cas. Donc, si vous voulez, on peut faire ça. Je vais prendre un autre exemple. Tout ça est organisé sur les réseaux sociaux. Combien y a de confiscations des smartphones ? Combien y a de mesures de couvre-feu pour les jeunes mineurs, même en dessous de 13 ans, j'insiste, bien sûr les 13, 16 ans, etc., qui ont participé aux émeutes ? Combien y a de travaux d'intérêt général ? Je vais prendre un exemple. Vous savez que les travaux d'intérêt général, c'est aller aider dans la mairie, comme on le dit, vous avez cassé, vous réparez, etc. Donc, ça peut aller jusqu'à 400 heures. Donc, grosso modo, c'est un samedi toute l'année. où vous allez aller bosser, faire quelque chose pour réparer ce que vous avez détérioré. C'est pas. Mais si vous faites ça pour des jeunes, et si vous le faites tout de suite, mais ils comprennent qu'il y a un problème. Vous n'allez pas. C'est pas les parents qui sont le sujet. C'est d'amener tous ces jeunes, parce qu'on a un vrai problème en effet, et dès le plus jeune âge. Hein. Je voudrais juste rappeler cette donnée. Je ne sais pas si vous, tout le monde le sait, mais sur 75 pays dans le monde. Dans les études de l'OCDE, nous sommes presque le dernier pays, il n'y a que l'Argentine et le Brésil qui font pire, dans ce qu'on appelle l'indiscipline dans les écoles. Donc nous avons un vrai problème, et c'est pas les parents qui vont faire la discipline à l'école. Mmh. C'est donc chaque jeune, dès l'école primaire, qui doit être tout de suite rendu responsable de ce qu'il fait, sanctionné pour ce qu'il fait, sinon on ne pourra jamais s'en sortir.
Merci Jean-François Amadieu d'avoir été avec nous. Jean-François Amadieu, sociologue, qui était avec nous donc dans Estelle Midi. Nathalie nous rejoint au 32-16. Bonjour Nathalie.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC. Vous nous appelez d'où Nathalie ?
De Toulouse.
De Toulouse, d'accord. Vous faites quoi dans la vie ?
Je travaille dans une banque, je suis employée de banque.
Mère de famille ou pas ?
Oui, j'ai deux enfants de 19 et 24 ans que j'élève seule depuis plus de 12 ans, voilà.
Un milliard d'euros de dégâts lors des émeutes de l'été dernier, les familles doivent-elles rembourser ?
Mais bien sûr, monsieur. Nous sommes responsables de nos enfants, de l'éducation qu'on leur donne, du cadre de vie qu'on leur donne. J'ai un petit salaire, je suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais je suis quand même imposable malgré mes deux enfants. Donc ça veut dire que avec mes impôts, on me prélève déjà des sommes astronomiques par rapport à ce que je gagne. C'est pour payer la santé, c'est pour payer l'éducation, c'est pour payer les prestations sociales de ces familles dont les enfants ont détruit. Si en plus, il faut que je paye pour les destructions qui ont été engendrées par ces gens-là, moi je suis vraiment désolée, mais où est la justice ? Moi je travaille tous les jours, je me lève aussi tôt le matin que certaines de ces mamans célibataires qui élèvent des enfants apparemment de façon un peu trop laxiste. Mais il n'y a pas de raison que moi je paye pour les dégâts qui ont été commis par ces gens-là. Je suis navrée. La France est un pays où il y a suffisamment de droits, suffisamment d'aides, suffisamment de prestations pour qu'on puisse envisager d'élever des enfants qui ne sont pas des sauvages. On donne trop de champ à toutes ces excuses qui n'en sont absolument pas. La réalité, c'est que tous les réseaux sociaux, Internet, etc., ça n'a été que des outils pour mettre en place des meutes de jeunes qui ont volé, qui ont pillé, qui ont commis des exactions. Ça n'était qu'un outil. Ça n'a pas été une provocation supplémentaire de la part des réseaux sociaux. Donc il faut arrêter de donner des excuses à tout bout de champ. Ils doivent rembourser, ils doivent être pénalement responsables. Et même s'il faut prendre sur les prestations sociales, il faut que ce soit fait.
Merci Nathalie d'avoir été avec nous au 32-16. Nathalie qui nous appelait au 32-16. Benjamin, je sais que tu voulais réagir, Fred aussi, parce que je vois que tu approuves ce que dit Nathalie, mais on est pris par le temps. La priorité, c'est les auditeurs sur RMC et on leur a donné la parole. Et c'était important de les entendre. Que ce soit la position de Jean-Michel qu'on a eu tout à l'heure, dont le fils
qui est prêt à payer, hein, il l'a dit. Hein,
comme Nathalie, on vous a posé la question. 1 milliard d'euros de dégâts lors des émeutes 2023. Les familles doivent-elles rembourser ? Le résultat, il est sans appel, Alfred.
Oui, vous répondez oui à 93%, non à 7%. Je finis par deux messages. D'abord, Kevin, il faut taper du poing sur la table. Et puis un message qui nuance. Sarah qui dit, est-ce que l'on demanderait aux agriculteurs de rembourser les dégâts causés en début d'année ? Très attention juste à ne pas tomber dans le deux poids, deux mesures.
Très juste. Nous avons au studio un Benjamin Hamard frustré, mais il va pouvoir s'exprimer sur un autre sujet.
Oui, il y avait des tas de trucs à dire encore.
Mais on en reparlera de toute façon. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Pourquoi Benjamin, tu vas pouvoir t'exprimer notamment? Parce qu'on va parler de l'école. L'État condamné à dédommager des familles d'élèves pour non-remplacement de professeurs. Est-ce que c'est logique que l'État soit condamné? Vous nous appelez au 32-16 et dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. On parle du verdict du jour. C'est un verdict prononcé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui condamne, Alfred, l'État à dédommager les familles d'élèves pour le non-remplacement d'enseignants. Les sommes sont modiques, mais le symbole, lui, est fort.
Oui, parce qu'un prof non remplacé, ce sont des heures de cours perdues et c'est à ce titre que l'État a été condamné. Il devra donc verser 150 euros aux 8 familles qui ont obtenu gain de cause. Tout est parti d'une opération collective lancée en 2022 avec le hashtag « On veut des profs ». Les parents dont tous les enfants sont scolarisés dans les Yvelines ne se sont pas limités aux réseaux sociaux et ont donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Dans sa décision, le tribunal considère que ces absences de profs ont entraîné une perte de chance pour les enfants de réussir leurs années scolaires en raison de la rupture de continuité pédagogique.
L'État condamné à dédommager des familles d'élèves pour non-remplacement de leurs professeurs, est-ce que c'est logique? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16. Je me tourne vers un enseignant, Benjamin Hamard. Benjamin, est-ce que c'est logique?
Eh ben, en tout cas, ça devait arriver et c'est moi le fait que ça arrive me fait gentiment sourire parce que ça fait des décennies qu'on a des coupes dans les moyens du service public d'éducation nationale. On a effectivement un problème de recrutement qui explique le nombre d'heures non remplacées. C'est catastrophique pour un certain nombre d'élèves qui peuvent se retrouver sans prof de maths en particulier ou sans prof de français pendant des mois. C'est quelque chose sur lequel les syndicats alertent. C'est d'ailleurs un motif de grève régulier. Dans ces cas-là, d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas toujours la bienveillance des uns et des autres sur ce genre de conflit.
Les c'est parents, qui les uns et les autres
J'ai vu un certain nombre d'éditorialistes dans les médias cracher leur fiel dans ces cas-là. Hein, en ergotant la même petite musique.
Les profs sont tout le temps malades, sont tout le temps absents.
Tu me l'enlèves de la bouche. Ouais. Donc, toute cette petite musique-là, et alors que c'est un problème de fond, les parents d'élèves, depuis longtemps, les différentes fédérations de parents d'élèves pointent ce sujet par des déclarations, par des communiqués, par des expressions médiatiques. Certains ont décidé de porter l'affaire en justice et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça va faire jurisprudence. Et ça risque de donner des idées à certains. Et voyez, par rapport au sujet précédent dont on parlait, la question de la jeunesse, de l'encadrement de la jeunesse, l'école n'est bien sûr pas la panacée, elle ne trouve pas la solution à tout, elle ne trouve pas la parade sur tout, mais c'est bien évidemment essentiel. Et que certaines familles aient décidé de prendre ce pli-là, je pense que c'est très intéressant, parce qu'au bout d'un moment, si ça se multiplie, ces procédures en justice, ça va peut-être en faire réfléchir plus d'un dans la gestion des affaires publiques.
Robert Sebag.
Écoutez, il y a les fonctions régaliennes de l'État. Dans les fonctions régaliennes de l'État, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la sécurité. Et effectivement, si vous voulez, au niveau des enseignants, on pourrait transposer ça aussi au niveau de la santé, hein, où il y a aussi des responsabilités. L'État est responsable d'un certain nombre de choses sur la structure hospitalière, sur les urgences. C'est vrai qu'il y a plus d'attractivité? Il manque. Pourquoi il y a absentéisme? Parce qu'il manque effectivement des professeurs. Ils peuvent être malades, mais il y avait des remplaçants à l'époque. Là, parfois, il n'y a même plus de remplaçants. On demande à un instituteur ou un professeur de prendre en charge deux classes en même temps ou de changer quasiment de spécialité. Donc, il y a le problème de l'attractivité. Et l'attractivité de la profession, c'est aussi le salaire. Quand on s'aperçoit que les concours ne sont pas pourvus, on est obligé de baisser le niveau pour pouvoir remplir au niveau du CAPES et au niveau des professeurs des écoles. Il y a le problème aussi de la sécurité. La peur, parce qu'il y a des problèmes de sécurité à l'école et c'est pas un facteur d'attraction. Donc oui, il y a une responsabilité de l'État et j'ai envie de dire, et en tant que médecin, il y aurait aussi une responsabilité de l'État au niveau de la santé.
L'État condamné à dédommager des familles d'élèves pour non-remplacement de professeurs. Est-ce que c'est logique? Vous nous appelez au 32-16. Frédéric Hermel, est-ce que c'est logique?
Je suis pas très fan de la judiciarisation de la société. C'est-à-dire que ça, c'est très américain.
Pas de la société, de l'État.
Non, mais dans la société, c'est-à-dire maintenant sortir des avocats et des plaintes pour un oui, pour un non, ça me gêne un petit peu. Après, quand on se retourne contre l'État, tout ça, je n'aime pas trop ça. Après, il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est les 150 euros. Moi, j'aurais préféré que l'État soit condamné à donner des cours à ces gamins. Voilà. Si on donne 150 euros par an, bon.
Oui, non, pour récupérer les cours, quoi.
Pour récupérer les cours. Non, mais simplement, il y a des cours particuliers, voilà, pourquoi pas.
Ouais, mais qui donnerait les cours? Il n'y a pas de prof.
Mais il n'y a pas de prof, voilà. Oui,
par contre, pour les cours particuliers, t'inquiète pas, on trouve toujours des profs, hein.
Oh là.
Ah bah si. Non, mais bien sûr. Il y a des profs. Il y a plein. Les parents qui ont de l'argent.
Pierre lancé dans la marque.
Mais c'est des cours particuliers, il n'y a jamais de problème de profs. Donc, l'État n'a qu'à payer des cours particuliers aux gamins de ces familles qui considèrent que les cours ont été manqués. C'est-à-dire, les pertes de chance, ça ne se compense pas avec 150 euros. Benjamin sera d'accord avec moi. La perte de chance, c'est ne pas avoir les cours. On n'a qu'à remplacer les cours et donner des cours particuliers sur les leçons qui ont été manquées. Pas 150 euros qui vont rien changer.
Mais ce genre de condamnation, laisse-moi te dire, dans les débats publics et la manière dont les débats publics s'orientent, les décisions de justice, ça compte beaucoup. Surtout quand elles risquent ensuite de se multiplier. Ça fait, moi personnellement, ça fait bien longtemps que je suis convaincu que des actions en justice plus systématiques des syndicats sur un certain nombre de sujets feraient avancer le schmilblick.
Vous avez déjà la grève, vous voulez
pas
tout.
Oui, mais justement, j'observe, j'observe que tu as un regard différencié sur la grève et sur la justice. Sur la question précédente, tu n'avais pas de problème avec la justice. Donc là, la judiciarisation, je le dis, ça peut être en l'occurrence un levier pour faire un peu bouger les choses. Ouais.
L'État condamné à dédommager des familles d'élèves pour non-remplacement de professeurs. Est-ce que c'est logique ? Benjamin est avec nous. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue Benjamin. Dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez tout d'où Benjamin, pardon ?
De Bonneuil-sur-Marne.
Val-de-Marne, région parisienne. Oui. Voilà. Vous faites quoi dans la vie ?
Bah, je suis prof, comme Amar, mon
éponyme. Prof lycée, collège ?
Les deux.
Les deux, très bien. Vous êtes père de famille peut-être aussi ?
Non, pas encore.
D'accord, donc jeune professeur ?
Presque, ça fait 15 ans que j'enseigne. À peu près.
Quand même, déjà, ouais, vous avez commencé tôt.
Voilà, et ça fait 20 ans pour les cours particuliers, pour reprendre Monsieur Hermel.
Ah, vous donnez aussi des cours particuliers ?
Je donne aussi des cours particuliers. Et sachez, Monsieur Hermel, que les organismes des cours particuliers cherchent énormément de professeurs et qui recrutent, je vais pas dire un peu n'importe qui, mais ils recrutent pas forcément de vrais profs. Donc eux aussi ont du mal. Et... Pardon ?
Ah, ça, c'est un problème.
Bah oui, c'est un problème.
Pas les profs.
Bah oui, mais je vais vous dire, quand j'ai commencé moi ma carrière en tant que prof particulier, bon, on m'a posé des questions et j'ai remplacé quelqu'un qui s'est fait passer pour un prof de mécanique.
Ah ouais.
Il était le jeune avait besoin d'un vrai prof de mécanique comme j'étais moi et il avait eu juste avant un prof de physique qui s'est fait passer pour et qui a pas été suffisamment compétent.
Là, vous êtes prof de maths, hein, c'est ça ?
Là, je suis prof officiellement de sciences de l'ingénieur et je donne aussi des cours de maths et de technologie.
Bon, l'État condamné à dédommager les familles d'élèves pour non-remplacement de prof, est-ce que c'est logique ?
Ben oui, parce que c'est à eux qu'incombe cette mission. Maintenant, comme j'ai dit au standard, il n'y a pas de prof, on fait quoi ? Moi-même, l'an dernier, j'ai été hospitalisé, j'ai été immobilisé pendant 6 mois. Il n'y avait personne pour me remplacer. De temps en temps, j'avais des collègues qui prenaient mes heures pour que les enfants avancent. Mais sinon, voilà, on fait quoi ?
Non mais donc c'est bien la responsabilité de l'État si on manque de profs.
Oui, bien sûr que c'est la responsabilité de l'État. Et je vous dirais même, et Benjamin Amar sera d'accord avec moi, c'est l'État qui a rendu le métier si repoussant que plus personne ne veut venir. Et que même quand il y a quelqu'un qui voudrait venir, il part en courant. Parce qu'il voit un peu la difficulté de la tâche pour la valorisation et la reconnaissance.
Alfred.
Oui, juste un peu de contexte, puisqu'on a des données récentes du ministère de l'Éducation sur le remplacement des profs. Sachez qu'à l'école primaire, 80% des profs absents sont remplacés, un taux qui atteint aussi 96% au collège et au lycée, mais ça ne comporte que les absences longues, les absences de plus de 15 jours. Le problème, c'est les courtes absences qui, elles, ont du mal à être remplacées.
C'est exactement ça, Benjamin. Ce qui pose problème, c'est quand un prof de maths est absent, ou un prof de... Peu importe, je prends un exemple comme ça, parce qu'on était avec... Avec Benjamin, un prof de maths absent 2 jours, et puis 3 semaines après, il est absent 1 journée. C'est ce problème-là.
Les remplacements longs sont mieux remplacés. Je ne dis pas.
Et après, on court après le programme.
Il y a aussi des fois des profs qui sont remplacés, qui sont absents plusieurs mois, et le remplacement n'arrive pas. Ouais. Mais c'est sûr que c'est surtout sur les remplacements courts. Mais cela dit, il me semble que c'est 60% des cours non remplacés qui étaient prévisibles, c'est-à-dire qui étaient liés à des absences prévisibles d'enseignants.
Donc ça, l'enseignant avait annoncé qu'il
prend des raisons X ou Y. Des raisons de formation.
Rendez-vous médical, ça peut être ça aussi.
Voilà, des raisons de formation professionnelle, raisons de décharges syndicales, vous voyez, par exemple, qui étaient prévisibles et qui ne sont pas remplacées. Oui, parce que le droit syndical est un droit constitutionnel.
Quand
on a une décharge syndicale et qu'on l'annonce, on doit être remplacé.
Moi, je me méfie.
Et on prévient à l'avance.
C'était Benjamin Amar, prof, qui était en train de parler. Merci à un autre prof qui s'appelle aussi Benjamin, qui nous appelait au 3016. Depuis le Val-de-Marne, et on va rejoindre Mickaël. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis quel département ?
Je suis dans l'Isère.
Dans l'Isère, dans quel coin ? Dans l'Isère ?
Centre-Isère, on va dire. Je préfère Centre-Isère,
c'est très bien. Centre-Isère, ok. Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis technicien méthode.
D'accord. Est-ce que l'État condamné pour le non-remplacement de profs, c'est logique ?
Eh ben, je sais pas, mais je voulais juste vous faire partager une petite expérience personnelle avec mes deux filles qui sont passées par le par un collège de campagne, on va dire.
Ouais.
Je pense qu'il y a aussi des abus un peu de partout, et notamment une certaine preuve qui se met en arrêt maladie régulièrement, quoi. Et du coup, bah forcément, elle n'est pas remplacée parce que c'est des petits arrêts en général.
Et donc, mais régulier.
Mais régulier, voilà. Mmh. Et ça dure depuis apparemment beaucoup de temps. Et bah, je comprends que ça doit être compliqué, quoi.
Est-ce qu'il faudrait faciliter, Benjamin Hamard, le licenciement ou le remerciement de certains fonctionnaires, membres de la fonction publique, lorsqu'ils font preuve de, bah, je dirais pas dire d'incompétence, mais en tout cas qu'ils sont pas au niveau?
Non, non, attendez, je jette pas l'opprobre sur les collègues.
Il y a des fois
des collègues.
Ne m'appelle pas Stanislas, hein, s'il te plaît.
Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais la question du licenciement des fonctionnaires est une nouvelle manière d'essayer d'attaquer le statut.
C'est ce qu'a évoqué hier Jean-Stanislas Guérini,
évidemment. Et c'est d'ailleurs la réponse.
Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont indéboulonnables et qu'on ne peut pas virer.
C'est, oui, mais ça, si vous voulez, c'est toujours la même technique chez le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté qui est pointée, finalement, on le renverse toujours vis-à-vis des salariés,
ça peut vous aider à mieux fonctionner, à être mieux payé. Mais le mérite, c'est pas mauvais, la vie.
Écoute-moi, ça fait 25 ans que je suis fonctionnaire. Ça fait 25 ans que j'entends des propositions pour qu'on soit mieux payé. Mon compte en banque attend toujours. Donc, en l'occurrence,
t'aimerais pas être mieux payé que quelqu'un qui travaille moins bien que toi?
Non, non. Je suis sûr
que t'es un excellent prof. Celui qui est tout le temps absent, qui travaille pas bien, il mérite plus que lui, non?
Le problème, en attendant, je vais te dire, le souci, c'est que personne n'est mieux payé. Donc, tu vois, ça tranche le sujet.
Oui, mais toi, ça sert à répondre à la question.
Et sinon, mais la réponse. Tu sais ce que c'est ta réponse, c'est d'ailleurs la réponse des macronistes, c'est le diviser pour mieux régner.
C'est ça, je suis
moi, je ne suis pas dans cette conception-là. J'exige des augmentations de salaire pour tous les fonctionnaires, pour qu'on n'aille pas dire à chacun. Pour qu'on n'aille pas dire à chacun, attends, toi, tu mérites ou pas? Résultat.
Dans la société civile, c'est normal.
Nicolas
dans une entreprise,
Sarkozy,
celui qui est meilleur, il est mieux payé.
Nicolas Sarkozy, en 2007, nous avait déjà fait ce coup-là. Moins de fonctionnaires, mais mieux payés. On est moins, on n'a jamais été mieux payés.
Non, mais tu réponds pas à la question, tu ne peux pas répondre à la question.
Je réponds très bien à ta question.
Dans le privé, c'est-à-dire l'immense majorité des gens de ce pays qui travaillent dans le privé.
Eh ben, Il y a des augmentations collectives.
Ceux qui travaillent
mieux.
Tu
connais les NAO?
Je termine.
Négociation annuelle obligatoire. C'est pour tout le monde.
Oui. Non.
C'est pour tout le monde.
Tu peux progresser dans la société. Quand tu travailles mieux, t'es mieux payé. Pourquoi les profs ne seraient
pas mieux payés? Je te répète.
Pourquoi c'est plus cher?
Dans le privé, il y a des négociations annuelles obligatoires et c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les catégories d'une entreprise. Et on n'est pas là entre. Il y a la rémunération au mérite et il y a les augmentations pour tout le monde. Moi, je demande déjà les augmentations pour tout le monde.
Du débat, pardon.
Robert,
les chiffres sur le problème
du directeur.
Voilà,
remets au milieu du village, s'il te plaît.
Voilà, pour revenir sur le débat, on a parlé de 87% de remplacement sur les absences longues. Il y a remplacement et remplacement. Moi, j'ai un certain nombre de témoignages. Parfois, on regroupe tous les élèves dans une seule classe.
Ah bah oui.
Donc, c'est un semi-remplacement. En termes d'efficacité de l'enseignement, parfois, on fait venir des enseignants qui sont pas réellement spécialisés.
Oui, c'est du bricolage.
Oui, non, mais il y a un problème qualitatif.
Oui, bien sûr.
Il y a remplacement et remplacement. Donc, on se gargarise en disant il y a 87%. La réalité, elle est peut-être un peu différente.
Bien sûr. Benjamin dit pas le contraire. Merci à Mickaël d'avoir été avec nous. Mickaël qui nous appelait depuis le département de l'Isère au 32-16, on vous a posé la question. L'État condamné à dédommager des familles d'élèves pour le non-remplacement de leurs professeurs, est-ce que c'est logique?
Vous répondez oui à 87%, non à 13%. Un dernier message de Michel. L'État devrait être condamné à donner des moyens à l'école au lieu de donner de l'argent aux parents.
Allez, on n'arrête pas le progrès dans un instant avec Anthony Morel, comme tous les jours. On va parler d'innovation qui pourrait véritablement changer la vie. Ça va t'intéresser, Robert, entre autres. Changer la vie des patients atteints de la maladie de Parkinson.
Ah ouais.
C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Anthony Morel est avec nous.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Salut Rémi.
On va parler d'un sujet grave, important aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la lutte contre la maladie de Parkinson. Et tu vas nous présenter des innovations révolutionnaires, mais véritablement. J'ai regardé un petit peu avant ce que tu nous avais transmis. Enfin, c'est dingue, ça peut vraiment En tout cas faciliter au bas mot, mais même parfois bouleverser la vie des patients.
Absolument, parce qu'il faut rappeler que la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, donc je parle sous le contrôle de Robert, elle ne se soigne pas, on peut agir sur les symptômes. C'est tout ce qu'on peut faire, notamment le symptôme le plus pénible, qui est les tremblements incontrôlables des mains, des jambes, de la tête. Ça peut être plus ou moins puissant, mais c'est vrai que c'est très pénible. Alors, il ne s'agit pas de donner des faux espoirs aux gens, mais il y a des innovations hyper intéressantes qui sont en train d'arriver, même si sur le marché français, elles sont encore un petit peu compliquées à se procurer. Je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est un truc que j'ai découvert sur un grand salon tech américain il y a quelques mois. Ce sont des gants, ça s'appelle les gyrogloves, des gants anti-tremblement pour les malades de Parkinson. Donc en gros, une paire de gants, tu les portes. Alors ils sont un petit peu plus encombrants que des gants traditionnels. Tu as une sorte de galet à l'arrière, au-dessus de la main, qui en fait a un gyroscope qui va analyser les mouvements et qui va en fait venir compenser les tremblements. C'est-à-dire que quand tu as des micro-tremblements, la main vers la gauche et va faire revenir vers la droite, et quand tu vas vers la droite, ça va faire revenir vers la gauche. Le résultat est assez spectaculaire. Une personne qui, par exemple, ne pouvait plus, je sais pas moi, tenir une tasse à café sans en renverser partout, une personne qui ne pouvait plus boutonner sa chemise, et bien avec cette paire de gants, c'est ce qu'on voit pour ceux qui nous regardent à la télé.
Enfin, facilité, moi je dis ça révolutionne.
Enfin, ça te transforme.
Ça bouleverse la vie.
Ça te bouleverse la vie réellement.
Quand tu peux boutonner ta chemise, on imagine que, Robert, mais très rapidement, mais j'imagine que psychologiquement aussi, c'est lourd.
C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Il y a les tremblements dans la maladie de Parkinson, mais il y a aussi le visage. Il y a une sorte de faciès particulier des gens qui ont un Parkinson.
Ah, c'est vrai, mais on voit. Alors le seul petit problème, je le dis quand même, c'est que encore une fois, c'est pas homologué en France pour l'instant et que ça coûte 5 000 euros. Wow. Que comme c'est pas remboursé par la Sécu, si vous voulez, discutez avec votre médecin, essayez de le tester sur des salons liés à la santé, par exemple. Mais c'est des innovations, en tout cas, assez révolutionnaires.
D'autres options, Anthony, notamment des couverts intelligents.
Oui, alors beaucoup moins cher pour le coup. Et là aussi, ce sont des couverts anti-tremblement qui s'appellent Liftwear. Ça coûte autour de 200 euros, ce qui fait cher pour un couteau et une fourchette. Mais bon, pour le coup, c'est pas mal non plus. Et là encore, tu vas avoir en fait une compensation du mouvement. C'est-à-dire que quand tu as la fourchette ou la cuillère dans la main, contrairement à une cuillère normale où tu vas trembler quand tu es en train de manger une soupe, et bien là, ça va venir ramener ta main de force vers la gauche ou vers la droite, mais en temps réel. Et du coup,
tu sens rien, évidemment.
Tu sens rien. Et en fait, c'est formidable parce qu'à la fois, ça te simplifie la vie et en même temps, ce que disent les patients, c'est que ça enlève aussi le côté la gêne ou la honte que tu peux avoir parfois quand tu es atteint par ces maladies, que tu vas manger au restaurant, quand tu es à l'extérieur, quand tu es en famille.
J'imagine que psychologiquement, ça
tu retrouves une forme de normalité, si tu veux, une liberté de mouvement qui est extraordinaire.
Allez, très vite, une application, on va aussi aider les patients au quotidien pour aller sur Internet.
Quand on utilise une tablette tactile, parce que là encore, quand tu as une tablette dans les mains que tu trembles, c'est pas facile. Application qui s'appelle Stable, S-T-A-Y-B-L. Génial. En fait, tu as la tablette dans la main et on va utiliser les capteurs de mouvement de la tablette, le gyroscope, l'accéléromètre, pour remettre le texte droit dans ton champ de vision, quel que soit ton tremblement. Et en fait, t'as beau faire tanguer la tablette, et tu vas toujours lire comme si la tablette, tu la tenais droite. Alors, ça ne fonctionne que sur iPad pour l'instant. J'espère qu'il va bientôt y avoir une version sur Android. Mais c'est là encore très très pratique. Je redonne le nom Stable, S-T-A-Y-B-L.
Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous dans un instant. C'est une pétition lancée par l'association 40 millions d'automobilistes dont le président sera avec nous. Une pétition pour plafonner les prix des carburants à 1,50€. Vous êtes d'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.